Retour à l'émission Au gré du temps avec nous, Mario Fraser. D'ailleurs, on va tout de suite clarifier quelque chose. On peut prononcer Fraser, Fraser. Quelle est l'appellation que vous préférez?
C'est incroyable. Mais écoute, moi, c'est sûr que c'est Fraser parce que, bon, je viens du lac Saint-Jean, c'est pas compliqué. Mais mes enfants qui sont nés à Montréal, ben, c'est sûr, tous des Fraser. Puis ils sont très fiers d'être des Fraser. Alors, moi, je ne chicane pas, je laisse faire. Alors, donc, à la banque, ils ont dit bonjour, M. Fraser. Ben, bonjour. Ils ont dit bonjour, M. Fraser. Ben, c'est bonjour aussi.
C'est super. On a déjà clarifié cela.
Oui.
On parlait tantôt de votre, écoutez, de votre prestation comme choriste dans le spectacle de George Benson. C'est quand même pas donné à tous de se retrouver sur scène
non,
avec un tel
personnage. Une chance incroyable.
Une chance incroyable.
Oui, oui.
Ça m'a beaucoup étonné. Étonné qu'en plus de faire du piano, vous ayez fait des chœurs, vous avez agi comme choriste et pas dans des petites prestations, vous avez été même le chef choriste, je crois, de l'émission La Fureur à Radio-Canada, c'est exact?
Ben oui, c'était le titre qu'on m'avait donné. Et puis, on était avec une équipe formidable. C'était le fun au bout avec Catherine Léveillé qui a une lecture complètement hallucinante. Puis les gens qui étaient autour, mon Dieu, c'était malheureusement, je me rappelle pas du nom de tout le monde. Mon Dieu,
ben, il y a tellement de monde sur ces productions-là.
Rick Hughes qui était là-dessus.
Oui.
J'avais... José, une magnifique voix. Mais c'était le fun. C'était une aventure extraordinaire de faire ça. J'ai bien, bien aimé ça.
Vous aimez ce rôle?
Ben, en fait, oui, j'ai aimé ça, mais c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe parce que je venais de faire la personnification de Clopin dans le Bossu de Notre-Dame.
Oui.
Et j'étais narrateur du film aussi. Alors ça, c'était comme...
Ça aussi, c'est étonnant.
Oui, c'est aussi étonnant pour moi que pour vous.
C'est
là.
Vous qui présentiez au début, là, comme souvent, cette belle voix là, qu'on entend.
Ben, en fait, oui, c'est pas votre voix, comme vous on peut l'imaginer.
<Non. rire>
mais ça fitait avec le personnage.
À titre d'exemple, ça donnait quoi? Ça sonnait comment?
Ben, tous les matins à Paris, se veille au tintement des cloches de Notre-Dame. Ah! Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas vrai! Mais oui, c'est vrai! J'avais un personnage, je faisais une mopette aussi, en tout cas. Mais c'est pourquoi j'ai eu la job aussi de faire ça chez Disney, c'est que la narration était très proche du chant. Tu comprends? Donc, fallait que ce soit la même personnage. C'était trop serré.
Oui.
Ça fait que là, ils sont allés voir dans les chanteurs. Puis quand j'ai passé l'audition, encore une fois, je pensais que c'était une blague quand ils m'ont dit que c'était moi.
Et quand on a la fibre musicale, ben, c'est plus facile.
Ah, ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça aide. Ça, c'est évidemment que ça aide énormément. Mais il y a une chose qui était fantastique. C'est que des fois, je faisais quelque chose, puis je l'avais super bien au point de vue vocal, puis tout ça. Et là, on me disait de l'autre côté, bon, c'était parfait. Maintenant, avec du sourire. C'est fantastique, ça. Ça, j'ai appris beaucoup là-dessus. Parce que le côté théâtre, je veux dire, le rictus, c'est incroyable. Dire, tu me dis, maintenant, je dis bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Je viens de faire un rictus qui se met par en bas, puis l'autre par en haut. Et ça paraît.
Et d'ailleurs, moi, j'ai, dans ma vie professionnelle, j'ai souvent accompagné des gens très, très sérieux qui devaient donner des entrevues d'affaires publiques.
Ouais.
Et je leur disais toujours, quand vous êtes à la radio, personne ne vous voit. La seule façon de percer, à la télévision, on dit percer l'écran, mais de percer la radio, c'est d'avoir un sourire dans la voix.
Ah, ben, regarde
et
ça, toi.
Quand on a un sourire dans la voix, et surtout quand on est dans un rôle, disons, de responsabilité, les gens vont être portés à nous sentir crédibles.
Ben, je pense que oui, c'est des ondes qui passent, ça vient là que c'est ça.
Je reviens au rôle de choriste, parce qu'on a reçu ici Pierre Senecal, qui a fait des années extraordinaires choriste. Il a été, bien sûr, chanteur populaire dans les années 60.
Un gros talent, ben oui, je me souviens.
Mais ses plus belles années, nous disait-il, c'est lorsqu'il était choriste, parce qu'il pouvait utiliser et exploiter tout son talent de chanteur, de musicien et tout cela, et être en harmonie avec les autres, aussi bien les musiciens que les autres choristes qui l'accompagnaient. Vous avez cette impression-là quand vous êtes sur scène avec d'autres choristes?
Moi, j'ai aimé ça beaucoup parce que, écoute, c'est sûr que parce que j'ai fait le métier de claviériste beaucoup aussi, sur des émissions de télé, puis notamment sur les tournées de Star Academy, je pense qu'il y a eu 5 tournées, j'en ai fait 4. Et puis, c'est sûr qu'il y a plus de stress, parce que là, on appelle ça des patchs de son, des affaires, puis il faut que tu joues au bon endroit, la bonne affaire, puis se dire, moi, personnellement, c'était pas quelque chose qui était naturel, il fallait que je travaille fort. J'ai des amis, comme un ami, comme il s'appelle Marco Tessier, qui lui, c'est un espèce de petit génie, il a toujours aimé ça, puis dans la famille, c'est des gens d'ordinateur en plus.
Mm-hmm.
Et puis, mais moi, non, c'était plus difficile, puis, alors, c'est sûr que quand je sortais de là, puis j'allais chanter, Ma voix, de la lecture à vue, puis le fun.
Votre voix dans les registres hauts, je pense.
Ah oui, vraiment. Je suis ce qu'on appelle un ténor.
Vous auriez été un bon petit chanteur du Mont-Royal.
Ah, oh, mon Dieu, probablement que oui. Ça se pourrait bien, mais j'ai fait beaucoup de chorales quand j'étais jeune, hein. Quand j'étais tout petit, là, ça s'appelait les criquets, je m'en souviens. J'étais chanteur lead là-dessus.
C'est un autre univers, et là, on va vraiment plonger dans un autre univers. On écoute ce qui suit, puis vous nous revenez avec quelques précisions. J'évoque juste le nom, Keith Jarrett.
Bon, oui. Mon Dieu, Keith Jarrett, mon Dieu, c'est un génie. C'est carrément, c'est ni plus ni moins qu'un génie, comme Mozart est un génie, comme... sérieux, là, je suis très sérieux quand je dis ça, là, parce que... moi, je l'ai entendu dans les années 70, quand j'étais étudiant au conservatoire, il était venu faire un piano solo à Québec. Et puis moi, j'avais entendu par un ami qui m'avait parlé de l'album « Facing You ». C'est Mario Parent qui m'avait parlé de ça, feu Mario Parent. Et puis moi, j'ai écouté ça, puis j'étais épaté parce qu'en même temps, ça mélangeait un peu le classique avec le jazz. Puis c'était très doux, juste du piano. Et puis j'étais extrêmement touché. Puis,
il a enregistré Bach d'ailleurs.
Bien sûr, oui, oui, ça puis d'autres choses aussi. Oui. Ben oui, ah, ben oui, puis c'est tout un technicien là. Alors moi j'avais écouté ça puis j'avais trouvé c'était extraordinaire. Donc j'avais acheté un billet puis j'étais allé voir au Grand Théâtre.
Le fameux trio.
Et puis non, en piano solo.
Piano solo.
Mais c'était extraordinaire. J'étais sorti de là, puis j'avais l'impression que j'avais assisté à quelque chose qui était hors de la planète. C'est fou. Un moment de grâce incroyable. J'avais assisté à quelque chose qui me dépassait complètement. Je me souviens d'être sorti de là, je marchais, puis j'étais ailleurs, puis cet ailleurs-là, ben c'est lui qui m'avait emmené là, tu sais.
Dans les années 70, bon, tout le monde découvrait de Conde Concerto, mais c'est curieux, moi je suis arrivé à Keith Jarrett, non pas par ce concerto improvisé, mais par un disque double. C'était un enregistrement sur un orgue, je pourrais pas dire de quelle cathédrale européenne,
où
il faisait des improvisations sur l'orgue. C'était majestueux. Ce disque-là est probablement doit sûrement être hors circuit. C'est probablement difficile de le retrouver. Il me semble que le titre de mémoire, c'était « Hymne et quelque chose d'autre », mais ce n'était que des improvisations et c'est avec une réverbération extraordinaire.
Ouais.
Et c'était Keith Jarrett, alors qu'on aurait pu croire que c'était un des grands organistes
Ouais, mais
de la
planète. Oui, mais tu sais que passé, avec les grands musiciens, il a joué avec Miles Davis aussi. Hein?
Oui.
Mais Miles, je me souviens parce que j'ai lu deux biographies de Miles Davis. Puis quand tu parlais du passage de Keith Jarrett dans son band, qui disait qu'il n'en revenait pas, parce que des fois, il était en train de parler, il répétait, puis lui se mettait à improviser. Puis improvisait sur n'importe quoi. Mais c'était... Miles n'en revenait pas. Il était complètement déculotté. Alors, c'était...
Comme vous le dites, un génie. Génie de la musique.
Absolument. Oui.
On passe dans un mode un peu plus léger. La chanson de Claude Nougaro, le jazz et la java.
Oui.
Et puis, on a fait une fusion avec l'enregistrement qu'a fait Nougaro et celui de Nicole Croisé. Et vous allez voir, c'est un peu comme si les deux conversaient.
Ah bon?
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java.
Quand j'écoute Béat, un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand j'écris bravo à la cornéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java.
Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Mais quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java.
jazz et java copain, ça doit pouvoir se faire.
Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère, je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo.
Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les classiques légers du jazz.
Ben oui, je comprends. Ben oui.
Au moment où il y avait des chansonniers très sérieux, Claude Nougaro est arrivé avec une musique que...
Ouais, c'était jazz, c'était très jazz. Écoute, il y a une pièce qui était magnifique aussi, dont j'oublie le titre, là, mais c'était ça change de beat dans la même pièce plusieurs fois, là. Oui, là, je me souviens pas des paroles, je suis pourri dans les paroles.
On va
avoir
plein de téléphones d'auditeurs.
Bon, mais c'est ça, ils nous diront.
Mais il a joué avec un claviériste montréalais, semble-t-il.
Oui, entre autres, un gars qui s'appelle Philippe Noireau, probablement que plusieurs le connaissent. C'est un pianiste fabuleux. C'est un artiste incroyable. Il est vraiment magnifique. Et puis, je sais que dans son jeune âge, il était claviériste pendant un petit bout de temps avec notre ami...
Nougaro. Et je reviens, moi, sur... Tantôt, on a parlé de Keith Jarrett et d'un album où il faisait des improvisations sur orgue. Ça a été enregistré sur étiquette ECM en 1976. Et l'album avait pour titre Hymnosphère.
OK.
Alors, si jamais vous pouvez mettre la main là-dessus, ça... doit faire partie des albums très rares, mais c'est vraiment une pièce de collection. On continue cette fois-ci avec une Québécoise, une autre découverte peut-être pour vous. Elle aussi est également enseignante au niveau collégial. Elle a pour nom Caroline Nadeau. Elle enseigne le jazz, le chant jazz, et elle a repris des chansons québécoises fort connues, mais elle les traite un peu à la façon jazz. On va entendre cette belle pièce de Sylvain Lelièvre, Les choses inutiles, Caroline Nadeau.
Moi j'aime les choses inutiles, les bonheurs tranquilles qui ne coûtent rien. Les couchers de soleil sur la ville, les bibelots débiles, les orchestres anciens. Le chant des bruants sur les fils, les poissons d'avril, tous ces petits riens qui nous rendent la vie moins futile. J'aime les choses inutiles qui nous font du bien. Moi j'aime les choses inutiles, les disques en vinyle, les contes de fées, le charme fuyant de profil, perdu dans la file des passants pressés, les langoustines sur le grill, les masques d'Échille, les parfums légers et les photos où l'on fait des mille. J'aime les choses inutiles qui nous font rêver. Moi j'aime les choses inutiles, la joie de Lucille quand naissent les fleurs, un film de Buffalo Bill, automobile en panne de moteur, la voix des poètes en exil, toujours en exil, du jour et de l'heure, les couleurs de leur chant fragile. J'aime les choses inutiles qui nous parlent au cœur. Crocodiles et les orchidées auraient chaque année bisextile, le droit d'être une île ou même députée. La vie n'en serait pas plus facile, l'argent moins servile, mais on peut rêver. fossiles. J'aime les choses inutiles qui donnent à chanter. Et tant pis si je passe pour un fossile. J'aime les choses inutiles.
C'est fou comme le temps passe vite quand on est en compagnie de Mario Fraser. On va vous demander de nous revenir la semaine prochaine parce que le temps nous a glissé entre les mains.
Avec joie, mon ami.
Le temps de vous dire, Mario, que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Henri Lintz, Armand Dubois, la réalisation et l'animation. Et puis la semaine prochaine, vous nous apporterez vos découvertes à vous au plan du jazz. Je pense qu'on va en faire de très belles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir.
Et on va vous entendre avec notre thème de fermeture que vous allez tout de suite aller interpréter au piano, qui a pour titre... C'est votre nouvel album.
Oui, ça s'appelle... mon Dieu, excuse-moi, je vous ai pris par surprise. Parce que j'ai de la misère avec les titres, mais ça s'appelle Grand-papa oiseau.